Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit.
Un éléphant, un castor et un reporter à houppette. Voici trois figures de l'année 1931 avec la création de Père Castor par Paul Fauché, de Babar par Cécile et Jean de Brunhoff et la parution de Tintin au Congo, la nouvelle aventure que propose Hergé. Pourtant, en 1931, un événement passe inaperçu, c'est tout à fait normal, c'est la naissance d'un enfant en novembre à Strasbourg, Tommy Ungerer. 30 ans plus tard, il propose « Les trois brigands ». Par ce livre, la littérature jeunesse est chahutée.
Ça commence.
Il était une fois trois vilains brigands avec de grands manteaux noirs et de hauts chapeaux noirs.
C'est l'ouverture de ce livre, Les trois brigands. Anne Schneider, bonjour.
Bonjour.
C'est toujours une émotion d'entendre cela. C'est très intéressant si nous nous arrêtons sur le texte des trois brigands. C'est un texte extrêmement court. Hein. Vous êtes chercheuse en langue et littérature française, maîtresse de conférences à l'université de Caen-Normandie. C'est un texte très très court, les trois brigands.
Oui, tout réside dans cette simplicité et dans ces quelques mots finalement très subversifs qu'il a réussi à glisser dans son texte. Je vous rappelle que la petite fille est finalement ravie d'être prise par les brigands hein, et elle le dit puisque dans le texte vous avez une mention comme quoi ça ne lui plaît pas du tout de devoir aller chez une vieille tante grognon. Donc la petite orpheline est ravie d'être dans un autre monde. Et les trois brigands, bah, eux, ils sont dans une espèce d'atavisme, un atavisme terrible, puisqu'en fait, on les assigne à être des trois brigands, et en fait, ils ont certainement envie d'être bien autre chose.
Ah, l'histoire est très simple, hein. Des brigands, au moment d'une attaque de diligence d'une voiture hippomobile, il y a une petite fille, orpheline, mais qui se rend chez sa tante grognon, peut-on lire. Et ben, les brigands décident de s'occuper d'elle. Loïc Boyer, bonjour.
Bonjour.
Pour ces trois brigands, nous venons d'évoquer le texte, très court. Alors vraiment, ça tient à très peu de choses, mais c'est d'une force absolument incroyable. Et puis, il y a bien sûr ces images. Vous êtes designer et vous avez écrit les images libres dessinées pour l'enfant entre 1966 et 1986. C'est ça aussi la force des trois brigands, ce sont ces illustrations.
Oui, absolument, et qui sont picturalement, c'est extrêmement fort. On a des choses qui sont très tranchées. Il passe dans son dessin là. Il est alors qu'il a un trait qui est très incisif, hein, et qu'il est connu à ce moment-là vraiment justement pour ce trait très particulier. Il est là vraiment sur des aplats de couleurs, et surtout il y a une présence du noir en fait, hein, qui est très importante et qui, à l'époque, hein, si on remet les choses effectivement dans leur contexte, graphiquement, ça correspond pas exactement à ce qu'on a l'habitude de voir dans les livres pour les enfants. Donc il y a une espèce de saut comme ça vers quelque chose. Donc déjà, on le disait, le texte, c'est une histoire, c'est des brigands. Donc ça veut dire qu'en gros, c'est les méchants, en fait. C'est eux les héros, c'est les méchants. Et en plus, donc, plastiquement, on a quelque chose, voilà, qui est très sombre, qui est un peu dark, qui pourrait être a priori un peu effrayant, mais qui va faire finalement le succès du livre.
Oh là là, Loïc Boyer, vous venez de parler de contexte, mais qu'est-ce que vous nous faites plaisir dans le cours de l'histoire sur France Culture. Mais oui, le contexte parution des Trois Brigands en 1961 et traduction en France en 1968, c'est cette chronologie des années 1960. On peut peut-être rappeler, dans ces années 40, 50, c'était quoi la littérature jeunesse? Qu'est-ce que pouvaient lire les enfants?
Bon, c'était quelque chose d'assez convenu, hein. D'abord, il faut savoir qu'après-guerre, on est plutôt dans une littérature qui va glorifier les héros de l'histoire. On a besoin de figures de résistants pour que les enfants puissent avoir des modèles. Et puis, avant, on a aussi tout le patrimoine qui est un petit peu celui des contes, qui est alors certes revisité hein, par le Père Castor, la collection du Père Castor, avec des illustrateurs qui viennent de partout. Donc il y a un vrai travail sur l'illustration, mais quand même tout ça reste très convenu, c'est de la littérature plutôt patrimoniale. Et là-dessus, bien sûr, Tommy Ungerer, mais comme d'autres, hein, comme Maurice Sendak à la même époque, vont faire voler en éclats non seulement le texte, mais aussi l'image, comme tu l'as montré. Et effectivement, par rapport au texte, il y a un exemple de subversion que j'aime beaucoup, c'est que ça passe toujours par les petites filles. Et les petites filles chez Tommy Ungerer, elles sont extrêmement audacieuses, pleines de bon sens, elles sont manipulatrices. Et je trouve que c'est vraiment quelque chose de nouveau dans la littérature enfantine.
Bah, dans Les Malheurs de Sophie, déjà, on a une petite fille espiègle tout de même. Dans ces années 40-50, bien sûr, on retrouve tous ces grands classiques, les contes de Perrault revisités sans arrêt, Les Malheurs de Sophie, Babar est toujours aussi présent. Il faut peut-être Toujours cette idée de contexte de Loïc Boyer. Non, mais rappelez l'importance accordée à l'enfant après la Seconde Guerre mondiale. On est aussi à un moment où cette histoire de la littérature destinée aux enfants s'inscrit dans un nouveau regard porté sur l'enfant.
Oui, tout à fait. Alors, il y a aussi cette fameuse loi de 1949 qui va borner au nom de la protection de l'enfance les ouvrages. Et on sait qu'aujourd'hui, cette loi, elle est encore appliquée, puisqu'il y a des phénomènes où on va lire les livres pour vérifier qu'ils correspondent à une ligne directrice qui est de ne pas démoraliser les enfants. Donc là, Tommy Ungerer, lui, il a été quand même sur une ligne un petit peu subversive. Mais oui, à l'époque, on reconstruit aussi tout un imaginaire de protection de l'enfance.
Ouais, protection de l'enfance avec cette loi de 1949 sur les publications destinées à la jeunesse et puis toute une réflexion portée par les meilleurs spécialistes. En 1948, s'exprimait Françoise Dolto.
Ce qui est important, c'est que les lois sociales existent toujours, elles existent partout. Elles existent dans les sociétés les plus lointaines. Or, ces journaux, généralement, font appel à des actes commis dans une société qui, pour les petits Français, est loin. Les Indiens, les cow-boys, ou bien dans un pays imaginaire, ou même dans un pays futur, un pays d'avenir. Or, tout ceci est mauvais parce que cela fait penser à l'enfant qui a trop tendance à le croire qu'un jour, il pourra faire tout ce qu'il voudra. Or, ce jour où il fait tout ce qu'il veut, c'est un jour passé de sa toute petite enfance et ça ne sera jamais réalisable socialement.
Françoise Dolto, pédiatre, psychanalyste. Alors en 1948, les gens évoluent, la pensée évolue et Françoise Dolto a accompagné aussi l'évolution de la pensée. Là, on est en 1948. Non, Loïc Boyer, quand on entend cela, nous sommes très loin de ce qui se passe dans les années 60.
Oui, et puis c'est amusant que vous ayez effectivement passé ce moment avec Françoise Dolto parce que justement, il va y avoir, on parlait de cette nouvelle manière de s'adresser aux enfants qui va se traduire surtout en France en fait par le travail des éditeurs Arlene Quist et François-Henri Vidal sous le label Les Livres d'Arlene Quist. Et justement, Françoise Dolto sera interviewée dans l'Express au début des années 70 au sujet de ces livres-là, qui sont si particuliers, qui sont vraiment une nouvelle manière d'illustrer, une nouvelle manière de raconter pour les enfants. Et elle va dire qu'il ne faut absolument pas que les enfants lisent ces livres-là, que c'est beaucoup trop dangereux, qu'ils vont devenir fous, en fait.
Ah oui, voilà, c'est un classique. D'ailleurs, la lecture qui va transformer complètement la psychologie de l'individu au 19e siècle, c'était le danger du roman. Mm-hmm. Là, pour les enfants, il y a vraiment beaucoup de précautions. Anne Schneider, il n'y a pas de critique, parce que aujourd'hui, on voit bien que ceux qui ont lu Les Trois Brigands ne sont pas devenus ni fous ni folles. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, il y a toute une réflexion, c'est nouveau.
Oui, c'est nouveau. Alors, ce qui est nouveau, c'est aussi la façon dont ces illustrateurs et auteurs vont considérer l'enfant. C'est-à-dire que pour eux, l'enfant peut aller jusqu'à une transgression permanente et totale de la figure maternelle et de l'autorité. Et Tommy Ungerer s'inscrit là-dedans. Alors, de par sa fusion maternelle, je pense qu'à un moment donné, il a aussi mis dans ses livres sa propre envie de mettre de la distance avec sa mère. On retrouve ça chez Maurice Sendak dans Max et les Maxi-Monstres, puisque le très jeune enfant va aller jusqu'à subvertir l'autorité maternelle. Et ça, ça a été très mal perçu. Il faut savoir qu'aux États-Unis, Tommy Ungerer, il s'est fait virer des États-Unis parce qu'il a été considéré comme trop subversif. Et en fait, parce qu'il avait en parallèle une carrière d'illustrateur érotique. Alors, certains diront pornographique, je ne suis pas sûre qu'on puisse aller jusque-là, mais en tout cas, quand il sort The Party, c'est vraiment un choc. Et les bibliothécaires des États-Unis, qui sont très puissants, c'est une association très puissante, en fait, vont carrément le mettre à l'index et lui interdire de continuer à inonder le marché de la littérature enfantine. Et donc, il va devoir partir des États-Unis, il va s'installer en Nouvelle-Écosse.
Oui, en 1966, il fait paraître The Party, un livre mis à l'index parce que jugé pornographique, c'est très mauvais goût. Loïc Boyer, Tommy Ungerer, c'est une carrière d'illustrateur avant tout, et il faut bien le souligner. Quand en 1961, il propose Les Trois Brigands, un livre destiné aux enfants, il a déjà derrière lui beaucoup de pratiques.
Absolument. Absolument. En fait, c'est quelqu'un donc qui est arrivé très jeune aux États-Unis, à New York, pour travailler. Il a fait toute sa carrière à New York et il a eu du succès immédiatement. Alors dans la publicité, dans la presse, donc avec des contenus adultes, hein, entre guillemets. Et puis, il est allé voir donc cette fameuse éditrice Ursula Nordstrom, qui a été la grande éditrice du XXe siècle aux États-Unis, qui a travaillé avec justement Maurice Sendak, enfin tous ces gens qui ont fait cette révolution, tout un tas de choses. Et avec elle, il va faire des livres, et ces livres vont devenir très vite, en fait, des best-sellers. Il y a une critique de l'époque aux États-Unis qui parle des livres de Tommy Ungerer en disant « ce sont des blockbusters ». Elle utilise ce terme-là dans les années 70 pour parler d'albums pour enfants. Donc il a vraiment un très grand succès.
Il est né à Strasbourg, pourquoi va-t-il aux États-Unis ?
Alors, il va aux États-Unis parce que c'est un enfant de la guerre et que il a subi quand même l'occupation allemande. Alors, il parlait français dans sa famille puisque il était issu de la bourgeoisie protestante et qui est francophile à l'époque. Il a appris l'alsacien sur le tas avec ses petits copains en jouant au foot. Donc, il est quand même matiné de trois langues puisqu'il a appris l'anglais à l'école. Donc, à 20 ans, il décide de partir avec son carton de dessin sous le bras. Et il commence à créer les Mélops, qui est une famille de petits cochons très dans la bourgeoisie puritaine américaine. Et il a un succès immédiat avec ses 5 albums. Les Mélops sont de l'avion, puis après il y a d'autres albums. Et puis surtout, il va réhabiliter des figures totalement jusque-là pas du tout présentes dans la littérature de jeunesse, comme le boa, la chauve-souris, la pieuvre. Et donc, on se rend compte que il va faire toute une série d'albums autour d'animaux très très méconnus dans la littérature enfantine. Donc, on sort de l'ours en peluche, le petit chaton et ce genre de figures.
Oui, voilà, qui étaient les figures dominantes dans ce qui était les Little Golden Books, les petits livres d'or, qui à cette époque là avait une diffusion énorme et qui était voilà tout un tas de petits héros à fourrure douce, et justement il a voulu aller un petit peu contre ça en mettant en avant des héros qui venaient d'autres univers animaux.
Et puis mettons toujours en avant ce contexte pour dire que il n'est pas le seul à faire cela au même moment, parce que lui-même est le fruit de toute une histoire de l'illustration. Dans son travail, Loïc Boyer, d'illustrateur, Tommy Ungerer propose quelque chose de très innovant. On le sait que pour les livres pour enfants, oui, c'est le cas. Et là, c'est une vraie rupture. Dans son travail d'illustration, c'est quoi ?
Dans son travail de dessin, je dirais qu'il est vraiment dans l'air du temps, c'est-à-dire qu'il est au début très proche de Saul Steinberg, par exemple, en termes de style. Hein. Et même quand il va proposer ses dessins au magazine Le New Yorker aux États-Unis, on va lui refuser ses dessins parce que justement, c'est considéré comme étant trop proche. Par ailleurs, ça l'empêchera pas d'aller dans plein d'autres magazines, mais il a ce trait très particulier qui séduit beaucoup c'est surtout à New York, en fait, hein, que ça se passe. Je dis les Américains, mais en fait, tout ça, ça se passe beaucoup à New York où il y a une scène effervescente. Effectivement, hein, toujours le contexte, avec de la création en matière d'art plastique, enfin dans toutes les directions, et ça le nourrit, ça le porte vraiment. Et donc il va être là-dedans, donc avec ce trait qui est considéré par les Américains comme européen, en fait. Eux, ils le voient comme un style étant européen, et c'est ça aussi qui plaît, je pense, cette forme d'exotisme, alors qui peut-être pour nous n'est pas aussi évidente parce qu'on a moins de recul, mais et c'est ce qu'on retrouve aussi chez Maurice Sendak, qui a beaucoup d'influences. Alors ce qui est intéressant avec Sendak, c'est qu'il a à la fois des influences pop américaines, mais également des influences justement classiques du 19e siècle européen, de la Grande-Bretagne, de l'Italie, de la France, etc.
Oui, parce que cette période des années 1960, c'est une période de vivacité dans la création, avec des audaces. Et là, on peut le dire, Anne Schneider, cela concerne l'ensemble de la société. Il y a évidemment un lien avec l'histoire de la littérature jeunesse, mais tous ces gens-là, on parle de Tommy Ungerer principalement, mais ne sont pas uniquement des illustrateurs, des auteurs de livres pour enfants. Ils sont inscrits dans la vie.
Oui, ils ont souvent une carrière multiple. On connaît les dessins de Tommy Ungerer en tant qu'affichiste. Par exemple, quand il s'engage contre la guerre du Vietnam, avec des images qui sont quand même très osées. Hein. L'univers linguistique de Tommy Ungerer est aussi un atout pour lui, parce que c'est un grand créateur de mots. Par exemple, il invente une expression qui s'appelle « expect the unexpected », qui veut dire « attendez-vous à l'inattendu », expression qui vient vraiment de son cru. Et en fait, on en trouve plein, y compris en français d'ailleurs. Il parle de l'escargotisme, en parlant de la lenteur alsacienne qui sait pas très bien, l'alsacien ne sait pas très bien où il veut aller. Et tous ces jeux de mots, je trouve, participent à cette créativité extraordinaire.
Cette créativité extraordinaire, tant sur l'illustration que sur la langue, c'est ce qu'on retrouve dans Les Trois Brigands qui paraissent en 1961.
Ça commence.
Il était une fois trois vilains brigands avec de grands manteaux noirs et de hauts chapeaux noirs. La nuit, au clair de lune, ils se tenaient cachés au bord de la route. Le premier avait un tromblon. Le deuxième, un soufflet. Qui lançait du poivre. Et le troisième, une grande hache. Rouge. Lorsqu'ils apparaissaient, les femmes s'évanouissaient de frayeur. Et les hommes, les plus courageux, prenaient la poudre d'escampette.
Je suis certain que beaucoup d'auditeurs, d'auditrices revoient les images en entendant cette lecture par Tommy Ungerer lui-même des Trois Brigands. C'est dans le film d'Ayo Freitag, ce réalisateur allemand qui a adapté les Trois Brigands en 2007. Des mots ciselés, une lecture très simple. Et on voit ça, Anne Schneider, dans les Trois Brigands, c'est facile à lire parce que c'est très saccadé, c'est scandé, il y a une musique et il y a une précision dans les mots. L'efficacité du mot, on ne l'attend pas de l'illustrateur bien souvent, alors que si, l'illustrateur est aussi l'auteur, c'est un tout ce
qu'il
produit.
Oui, tout à fait. Il y a même un exemple que je trouve assez merveilleux, c'est le début d'Allumette. Allumette était vêtue de haillons, elle n'avait ni parents ni maison. Et je trouve que cette simplicité de l'écriture, elle est vraiment caractéristique aussi des recherches innovantes qu'il a faites au niveau linguistique. Y compris au niveau des traductions, puisqu'en fait, il s'est auto-traduit pour « À la guerre comme à la guerre ». Et la plupart des ouvrages qu'il écrit en anglais au départ, il les supervise avec les traducteurs, donc Florence Sevos pour l'École des loisirs et Anna von Kammerklett pour Diogenes Verlag. Et ce goût pour la langue, on voit qu'en fait, ça va irriguer toute son œuvre et que ça ramène quelque chose de supplémentaire. Oui, c'est ça la marque d'un grand artiste.
Loïc Boyer, parce que il y a celui ou celle qui va produire le texte. Et puis, l'éditeur va appeler un illustrateur pour illustrer ce texte. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça peut l'être, hein, et y a aucun souci. Mais il y a cette fusion. Soit l'auteur fait le texte et les dessins, soit il y a un travail main dans la main avec l'auteur et l'illustrateur.
Oui, ou c'est même tout le travail de l'éditeur, justement, d'aller construire cette chose, en fait, à trois, en fait. Hein. C'est justement, là, on parle effectivement de Maurice Sendak, de Tommy Ungerer, mais il y a tout ce mouvement qui va apparaître à partir de la fin des années 60 en France, et qui va être vraiment l'impulsion d'un éditeur, François-Henri Vidal, qui va aller chercher donc des auteurs qui ne sont pas des auteurs pour la jeunesse, qui va aller chercher des illustrateurs qui ne sont pas des illustrateurs pour la jeunesse, et qui va, voilà, construire des livres, hein, c'est comme ça qu'il se définissait, en fait, comme le metteur en scène de cette chose-là. Et là, on n'a pas, c'est pas tout à fait pareil, on n'a pas donc cette espèce d'auteur-illustrateur, hein, sur toute cette vague française, hein, qui va même complètement dans la même direction, mais on a vraiment une construction éditoriale de la part donc de François-Henri Vidal, et puis d'Arlene Quist, et puis de ceux qui vont suivre ensuite.
Oui, parce que c'est une histoire qui est très incarnée, hein. On cite tous ces noms, qu'il s'agisse de ceux qui ont réalisé les ouvrages, ou de ceux qui les ont portés en tant qu'éditeur, François-Henri Vidal.
L'enfant écoute la vie avec tous ses sens, alors que nous l'écoutons avec des polarisations. Je veux stimuler l'enfant, c'est-à-dire je veux qu'il soit stimulé par les livres qu'il lit. Je ne veux pas qu'il ait l'impression que le livre qu'on lui donne est une Bible incontestable. À la limite, je pense qu'un enfant doit pouvoir dire « je n'aime pas ce livre-là, je n'aime pas cette illustration, je n'aime pas ce texte-là, je n'aime pas ce style de livre ». Je voudrais que l'enfant ne soit pas cette espèce d'individu discipliné qui doit attendre tout de l'adulte. Je pense qu'il a, lui, à réinventer le monde. C'est-à-dire que la jeunesse, c'est cette espèce de groupe d'individus, provisoires, évidemment, dans le temps, puisqu'on ne reste pas un enfant et on ne reste pas un être jeune. C'est ce groupe d'individus qui prend la tradition et qui la réinvente.
François-Henri Vidal, en 1975, Loïc Boyer, il y a vraiment tout un programme dans
ah oui,
cette
oui, bah
démarche.
C'était clair, hein, pour François-Henri Vidal, il a vraiment eu une orientation, une idée. Il est instituteur à l'origine, hein, et donc il voulait vraiment, mais exactement comme ce qu'a fait Paul Fauché en son temps, mais simplement on est dans une époque différente, donc on va proposer des choses qui sont même tout à fait en contradiction avec ce que pouvaient proposer Paul Fauché et le Père Castor, mais simplement on est dans une époque qui est différente. Donc les enfants sont différents, la société est différente, et justement tout le projet de François-Henri Vidal, fondamentale, c'est de dire les enfants ne sont pas en dehors de la société. Ils en font partie. Donc on s'adresse à eux comme on s'adresse aux adultes. Hein. C'est pour ça qu'il va c'est ce qu'il dit, il se méfie de ce qu'il appelle les professionnels de l'enfance, donc c'est-à-dire les auteurs spécialisés jeunesse et les illustrateurs spécialisés jeunesse. Et il va chercher des gens, donc d'un côté des auteurs adultes, de l'autre côté des illustrateurs qui n'ont jamais fait de livre pour enfants. Et c'est comme ça qu'il va amener toute une nouvelle génération, justement, d'illustrateurs à partir de ces années 60-70, qui ensuite vont se diffuser chez les autres éditeurs, etc., dans les années 80, etc., même jusqu'à aujourd'hui, puisqu'Henri Galeron continue à dessiner, à faire des livres pour les grandes personnes.
Avec des auteurs, des autrices qu'on n'imaginerait pas, hein, Marguerite Duras, Ionesco et tant d'autres. Anne Schneider, c'est très innovant comme démarche.
Oui, c'est innovant. Et ce qui fait le succès de Tommy Ungerer, c'est aussi d'avoir compris qu'il pouvait distiller des petites morales à l'intérieur de ses livres. Et souvent, dans la fin des histoires, il y a des morales très intéressantes. Alors, parfois, elles sont dans l'image, comme dans Le Géant d'Héralda, où vous avez le petit garçon qui a un couteau et une fourchette dans la main, ce qui met à mal la petite maxime que Tommy Ungerer a écrite, qui dit que peut-être qu'ils ont été heureux, mais enfin bon, tout est dans le peut-être, évidemment. Et pour les trois brigands, c'est la même chose. En fait, il y avait une morale qui était très incisive et qui a été enlevée du texte après, lors des différentes traductions en allemand, en français. Et en fait, cette morale disait que ben, quand on a de l'argent, on peut l'utiliser autrement. Et ça a été jugé trop subversif, d'ailleurs. Hein. C'est pour ça que cette morale a disparu. Mais donc, oui, il y a une vertu éducative quand même chez Tommy Ungerer, et je pense que c'est aussi ce qui fait son succès. Alors, éducative, loin des sentiers battus, très balisés des éducateurs, quelque chose à la fois de subversif, mais qui prend l'enfant en compte comme un personnage à part entière, voilà, une vraie personnalité.
Il y a une vraie personnalité qui n'est pas détachée des réalités du monde. C'est ça aussi la force, et on le voit bien hein, par les illustrations. C'est-à-dire que les petits animaux tout doux à fourrure que vous évoquiez, Loïc Boyer, sont mis de côté. Le trait est beaucoup plus incisif. Les couleurs aussi. Avec les trois brigands, nous sommes sur des aplats de couleurs. Le noir est très présent. C'est la tenue des brigands, mais pas seulement. Et quand les enfants sont vêtus de rouge avec les mêmes chapeaux et les mêmes manteaux, c'est un rouge vif. Il y a quelque chose de très affirmé, mais ça aussi, c'est l'univers des couleurs des années 1960.
Oui, tout à fait. Il y a un univers pop comme ça qui arrive dans l'album et qui est complètement en décalage justement avec le vocabulaire graphique qui était habituel pour les enfants. Et quand on a ces premiers livres donc qui arrivent comme ça avec des illustrateurs donc qui, comme je disais, viennent de la publicité par exemple, la critique dit sans que ce soit négatif, hein, simplement dit ah ben voilà, on a des images publicitaires aujourd'hui pour les enfants parce qu'on identifie ce style à la publicité, mais pas à l'édition jeunesse qui, comme on le disait, après la Seconde Guerre mondiale est pas très intéressante, un peu pauvre, etc. Enfin voilà. Et d'un seul coup, il y a ce truc nouveau et qui aujourd'hui nous paraît tout à fait banal quand on voit ces images, parce qu'on a une richesse aujourd'hui dans l'édition pour la jeunesse qui est extraordinaire, mais qui à l'époque voilà, représentait graphiquement quelque chose de très très étonnant en fait.
Et puis il n'y a plus de rupture entre ce monde visuel des enfants et celui des adultes. Je pense dans ces années 1960 aux pochettes d'albums de tous ces artistes, les Beatles par exemple, Yellow Submarine,
et absolument.
Ben, c'est le même univers en fait.
Oui, puisque le Heinz Edelmann, donc l'illustrateur allemand qui a fait les dessins qui ont servi de base au dessin animé du Yellow Submarine, a fait un livre pour enfants qui va être publié justement sous le label Un livre d'Arlene Quist en France.
Ouais, parce que c'est faire vraiment confiance aux enfants, ça, Anne Schneider, de les incorporer dans le monde des adultes avec toutes les précautions. On l'a très bien entendu avec François Ruy Vidal, l'éditeur qui pensait à l'enfant. C'est qu'il y a désormais un univers dans lequel s'inscrivent les enfants, mais avec les adultes, toujours avec les adultes.
Oui, il avait une phrase magnifique qui est de dire « il faut traumatiser les enfants ». Alors évidemment, c'est une phrase un peu provocatrice, mais elle est tout à fait empreinte de son idéal. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de les mettre dans des bulles et de leur proposer un monde totalement édulcoré. Donc lui, au contraire, il pensait qu'on pouvait leur parler de la guerre. Par exemple, dans Otto, il y a quand même, dans la traduction en tout cas de 1999, en allemand, en français et en anglais, il y a les termes très crus de déportation, camp de concentration, étoile jaune, etc. Donc on voit bien qu'il a voulu assumer ce qui s'est passé et aussi se projeter dans la construction franco-allemande hein, après la guerre. Donc lui, il est pour qu'on dise les choses aux enfants, qu'on les accompagne certes avec des mots, mais qu'on dise les choses. Alors, ce qui est curieux, c'est qu'en 2010, la nouvelle version, donc anglaise, française et allemande de Otto, a été en fait complètement lissé. Et donc on n'a plus les termes de déportation, étoile jaune, camp de concentration. Également un petit dessin érotique d'une femme nue qui était sur l'avant-dernière page a disparu des nouvelles versions. Donc je m'interroge quand même sur la suite. Enfin, est-ce que Thom Jungerer est tellement subversif qu'il faut revoir ses albums ?
Autobiographie d'un ours en pluche de Thom Jungerer.
Et pour revenir à ce que vous disiez sur cette manière donc de rapprocher en fait les enfants des adultes, hein, d'être dans cette, de pas les mettre dans une case à part, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans la presse française, notamment dans ce chaînage de magazines que développe Bayard à cette époque-là, donc les Pommes d'Api, Astrapi, Okapi, et clairement l'objectif de Mijo Beccaria et de Yves Beccaria, donc les fondateurs de cette chose-là, c'était de faire en sorte que les enfants en fait quand ils lisent ce magazine, eh ben ils aillent voir leurs parents et qu'ils leur posent des questions et qu'ils leur disent mais qu'est-ce que c'est que ça, ce rapport à la société, etc. Et du coup, ça crée une communauté intéressante.
Voilà, il faut savoir créer des livres qui dérangent. Et parmi tous ceux qui ont réfléchi à que proposer aux enfants, il y a Arlin Quist.
Tout le monde en Amérique dit que mes livres sont trop beaux, initialement pour les gosses, mais je pense que c'est un argument absolument stupide parce qu'il n'y a rien trop beau. Mais le problème, c'était toujours parce que les gens disent aussi que j'étais 30 ans avant que tous les autres éditeurs. J'ai lu les choses fantastiques tout le temps, le science fiction, par exemple, et, le conte de fées, par exemple. C'était la seule chose qui existait à ce point-là. Mais dans un sens, collectivement, on fait un effort maintenant, si tu veux, à créer une nouvelle sorte de littérature pour les gosses. Et la littérature, ce n'est pas strictement toujours les textes ni les paroles. Certainement, c'est ça, toujours la base. Mais c'est aussi vis-à-vis les images qui provoque, qui stimule différemment et qui force un peu les enfants à réfléchir, à penser.
Ouais, forcer les enfants à réfléchir. Loïc Boyer, Arlin Quist, qui s'exprimait en 1997. Éditeur Arlin Quist, hein, qui vient des États-Unis et qui participe de cette révolution du livre pour enfants.
Oui, tout à fait. Et c'est vraiment lui qui fait le pont, justement, entre donc, ce qu'on disait Thom Jungerer, Maurice Sendak, etc., dans les années 60 à New York, et puis ce qui va se passer en France à la fin des années 60 et toutes les années 70, donc ça va être porté donc par cet éditeur qui est un éditeur, on va dire, transatlantique, hein, qui publie d'abord des livres aux États-Unis, qui ensuite rencontre François Ruvidal en France, et tous les deux vont s'associer, ils vont faire des livres qui vont être publiés tantôt en France, tantôt aux États-Unis, tantôt des deux côtés, quand ils s'accordent sur leur projet. Donc il va vraiment apporter cette manière, lui, dès ses premiers livres, il fait vraiment pareil, hein, comme je disais, travailler des illustrateurs et des auteurs qui ne sont pas des gens qui travaillent pour la jeunesse, tout en faisant donc une proposition éditoriale à l'adresse de la jeunesse. Et c'est ce que François Ruvidal fera, mais comme il veut d'une certaine manière démontrer à son camarade que les Français sont aussi capables que les Américains, c'est comme ça qu'il va vraiment réussir à créer en fait une nouvelle génération d'illustrateurs.
Une nouvelle génération d'illustrateurs avec comme figure majeure qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui dans le cours de l'histoire sur France Culture, Thom Jungerer, avec Les Trois Brigands 1961, Traduction 1968 en France, et puis il y a Jean de la Lune 1966, Anne Schneider. Ce sont des livres qui ont marqué. C'est pas une collection, au sens où il n'y a pas Les Trois Brigands à la plage, Les Trois Brigands à l'école, Les Trois Brigands. Non, mais souvent, c'est décliné. Jean de la Lune, c'est la même chose. On a vraiment des œuvres qui sont fermées ici et efficaces en tant que telles.
Oui, il y a vraiment une singularité pour chaque livre. Alors, on retrouve des traits graphiques de l'un à l'autre. Par exemple, Rufus, on retrouve ce travail sur la couleur, le noir et le bleu. La couleur rouge, vous l'avez dit, elle est extrêmement importante. Alors, elle provient de son observation régulière à la sortie du lycée quand il était jeune, du retable d'Isenheim qui se trouve au musée Unterlinden à Colmar. Et dans ce retable, il y a cette couleur rouge extrêmement profonde. Et on la retrouve un peu partout, d'ailleurs à la fin des Trois Brigands, hein, puisque tout le monde va être vêtu de rouge. Et c'est aussi une couleur qui est associée toujours aux petites filles. Et elle va être déclinée dans tous les albums. Donc, il y a à la fois des traits récurrents qu'on retrouve partout, et puis en même temps, une singularité de l'album. Et pour Jean de la Lune, c'est le héros malgré lui. Enfin voilà, il est ballotté par l'histoire et à la fin, finalement, il y a une reproduction de la conférence de Yalta sur la dernière page. Et puis la seule solution pour Jean de la Lune, c'est de repartir dans la Lune. Donc c'est toujours des albums aussi qui parlent de l'incommunicabilité, l'impossible intégration. Et lui, cette veine interculturelle, il l'a menée dans tous ses albums. Ça, c'est vraiment un fil conducteur qu'on peut retrouver.
autobiographie d'un ours en plus particulièrement bouleversant, hein, qui évoque la déportation, la Shoah, et pas seulement aussi, hein, parce que c'est une autobiographie et cet ours a une vie très riche. Les Trois Brigands, c'est pareil, c'est une orpheline. Jean de la Lune, vous venez d'évoquer la Seconde Guerre mondiale, Yalta. Les sujets choisis sont très très durs. En fait, nous sommes dans un monde qui nous fait peur. On dirait, on voudrait épargner les enfants de ce monde-là. Et là, c'est la démarche inverse. C'est au contraire s'accaparer ce monde pour transmettre quelque chose aux enfants. C'est ça, cette idée-là.
Oui, tout à fait. C'est ce que dit François Vidal. Il dit si on ne parle jamais du loup aux enfants, le jour où ils vont se retrouver face au loup, ils vont se retrouver en danger. Donc lui, il dit que justement, protéger entre guillemets les enfants, c'est les mettre en danger finalement à terme. Et donc c'est pour ça que lui, il veut inclure des messages complexes, subtils, inquiétants parfois dans ses ouvrages, parce qu'il dit que c'est la meilleure façon finalement d'accompagner les enfants.
Aujourd'hui, dans le cours de l'histoire, nous nous trouvons avec les Trois Brigands.
Nous sommes de noirs vêtus, les ombres trapues qui rôdent dans la nuit. L'or, l'argent, à peine entrevu, disparaissent sans un bruit. Seule la lune répond d'un rire tordu quand on le fusille. Vous subirez si vous résistez le dérouillé de votre vie. Le pillage est un jeu d'enfant, à ce jeu on est gagnant. Le tromblon claque et le canon souffle au nez des canassons. Il règne alors un silence de mort, c'est l'heure d'annoncer le final. La hache prend les rênes puis en un temps record fracasse les roues sans mal. Baboum, baboum, on vous prévient, ne faites pas les malins. Car l'acier plus affûté c'est qu'ils aient coupé un petit cœur comme rien. Baboum, baboum, on vous prévient, laissez-nous votre butin. Car l'acier plus affûté c'est qu'ils aient coupé votre gorge comme rien. Je crache sur ce bourg qui n'est qu'un piètre trou à rat. Dans nos bois, nous sommes la loi et tout procès tourneur est court. Les gendarmes, on se moque d'eux, mais épargnons les gueux. Même l'armée du bon roi nous craint. Nous volons les bourses débordantes de ces nobles aux panses peu donnantes.
Baboum, baboum, ne font pas les malins, prenez ce que vous voulez. Mais soyez indulgents, prenez que notre argent, que nos vies soient épargnées. Mais soyez indulgents, prenez que notre argent, que nos vies soient épargnées. Que nos vies soient épargnées. Que nos vies soient épargnées.
Les Trois Brigands. Dans le film d'Ayo Freitag et dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Thomas Boeck, aujourd'hui à la technique Alexis Paz. Anne Schneider, comment sont reçus les Trois Brigands? Faut toujours se méfier d'un regard que nous portons aujourd'hui sur des phénomènes du passé comme un succès évident. Déjà, est-ce que c'est un succès tout de suite?
Alors c'est un succès immédiat, mais qui est aussi dû à cette figure de cette petite fille très subtile. Et puis là, on a vu dans le film les effets de sonorisation qui amplifient le caractère très méchant des brigands. Mais si on regarde le texte, c'est très drôle parce qu'en fait le texte montre que les Trois Brigands accumulent des richesses. La petite fille leur dit bon, ben, vous faites quoi avec ces trésors? Et ils répondent ben on ne sait pas. Enfin voilà. Donc il y a cette espèce de renversement de la reproduction assignée du brigand. Et finalement ils sont complètement inoffensifs et d'ailleurs ils savent pas pourquoi ils répercutent en permanence cette violence. Et ce discours sur la violence, justement, alors c'est là que les détracteurs de Tommy Ungerer l'ont trouvé à l'époque beaucoup trop agressif, mais en tout cas le discours sur la violence, il est omniprésent dans l'œuvre de Tommy Ungerer. On le voit par l'omniprésence des uniformes, des tanks, des chars, de tout ce qui relève du combat, et c'est vraiment les obsessions d'ailleurs de Tommy Ungerer, hein. Donc il y a vraiment des uniformes partout, et c'est presque obsessionnel chez lui, mais c'est une façon de dire, attention, l'ombre de la guerre, elle est toujours là, et cette violence-là, il faut qu'on en fasse quelque chose. Donc, voilà, en Alsace, en tout cas, quand moi j'étais enfant, je sais que ces ouvrages étaient dans, on va dire, les milieux plutôt catholiques ou traditionnels, ces ouvrages étaient considérés comme beaucoup trop subversifs, et on pouvait pas les donner aux enfants. C'est très récemment, quand même, qu'il est redevenu un petit peu à la mode, y compris en Alsace.
Ben oui, parce que les brigands s'avèrent plutôt des chic types. C'est enquiquinant comme image. Et puis vous avez évoqué cette accumulation de capital qui est toute une réflexion sur le monde de la finance. Loïc Boyer, un ouvrage comme Les Trois Brigands, bien sûr, c'est perturbant par rapport à ce que nous évoquions en début d'émission, cette loi de 1949 sur les publications destinées à la jeunesse qui ne doivent pas montrer des brigands d'alcool, tout ce qui peut être pernicieux pour la jeunesse. Ben là, c'est de dire, les brigands peuvent être sympathiques.
Oui, absolument. C'est tout l'intérêt de cette manière, en fait, de faire des histoires où la morale n'est pas toujours là où on l'attend. Et il y a dans un autre livre de Toomey Ungerer, qui s'appelle La grosse bête de Monsieur Racine, que j'aime beaucoup, où il y a une histoire où vous avez des enfants, en fait, qui tout le long du livre, en fait, vont tromper le pauvre Monsieur Racine, qui va se retrouver vraiment dans des situations étonnantes parce qu'il comprend pas ce qui se passe. Et à la fin, en fait, quand est dévoilée la supercherie et qui ça donne lieu donc à un chaos total dans la ville, etc. Et donc traditionnellement, les enfants qui ont fait cette grosse bêtise qui a duré tout le temps de l'histoire, tout le temps de l'album, auraient dû être punis. Et ben non, Monsieur Racine trouve que la blague est bonne. Et finalement, ils vont manger des glaces ensemble. Et voilà, ça c'est tout Toomey Ungerer, en fait. Hein. Et c'est voilà ce qu'on retrouve dans Les Trois Brigands, cette manière de retourner les choses du côté positif, finalement, et en mettant en valeur, justement, les enfants.
L'auteur, Toomey Ungerer, nous raconte une histoire dans le livre. Très bien. Mais l'enfant, lui, ne lit pas le livre. Il peut le manipuler, il peut regarder les images, mais bien souvent, ce sont les parents qui lisent le livre pour les enfants. Comment lire un livre pour enfants?
Vous savez, nous sommes des artisans et quand un auteur vient nous voir avec un projet de livre, il y a d'une part les images et d'autre part son texte. Les images racontent l'histoire aux enfants, aux petits. Et il faut savoir qu'un enfant, naturellement, de 3-4 ans, il ne sait pas lire. Donc, nos images, les images de l'auteur, racontent la trame de l'histoire. Et le texte, souvent, c'est un peu comme le son d'un film, les dialogues et des ponts pour faire avancer l'histoire au cas où il y aurait des trous entre deux images. Au début, les adultes lisent l'histoire aux enfants, ils font le son et les enfants, eux, ils ont les images. C'est comme s'ils regardaient la télé et que les parents faisaient les commentaires sur les images. Les livres pour petits sont une activité partagée entre les enfants et les adultes. On ne sait pas à quoi ça sert quand on est un bébé. Il faut apprendre à entrer dans le livre. Et il faut naturellement que chacun de nos livres soit confectionné de façon à ce que l'histoire arrive le plus puissamment chez l'enfant.
Nous venons d'entendre Arthur Hopschmidt, qui est un des fondateurs de l'École des loisirs, qui s'exprimait en 1986. Loïc Boyer, vous en pensez quoi de cette réflexion sur l'importance de penser à l'adulte aussi au moment d'éditer? Parce que c'est ça la question, un livre pour enfants.
Absolument. Et c'est ce qui mène aussi cette démarche un petit peu particulière qu'on parlait tout à l'heure d'associer l'enfant et l'adulte. C'est qu'en fait, finalement, le livre est conçu par des adultes, vendu à des adultes, et que Patrick Couratin, donc, a été éditeur aussi dans ce mouvement français de révolution autour de l'album pour enfants, disait jamais on aurait testé un livre auprès des enfants, ça ne serait pas venu à l'esprit. Ils font des livres parce que ça leur fait plaisir, des livres parce qu'ils ont des choses à dire au monde. Et après, l'enfant est une catégorie qui n'est pas à part, en fait, hein, dans le monde. Et c'est ça qui porte la chose et qui fait que oui, c'est une affaire d'adulte, en fait. Hein.
C'est une affaire d'adulte parce que ceux qui portent ces livres, ces auteurs, ces éditeurs sont des adultes, ceux qui vont les lire sont des adultes aussi. Et puis c'est surtout cette réflexion liée à qui est l'enfant. Anne Schneider, dans ce moment-là qui nous intéresse, ces années 1960, il y a tout à reposer sur qui sont ces enfants. Ce sont ces enfants de l'après-guerre. Et on repense à cette loi de 1949 qui, sans être datée, parce qu'elle est toujours d'actualité, pose vraiment de questions. Le monde est bouleversé dans ces années-là et les auteurs de livres pour enfants s'en ressentent.
Oui, tout à fait. Alors, il y a des productions très convenues. Hein. Je vous rappelle qu'il y a quand même la série des Martines avec Martine Petite Maman, Martine va au parc, etc., qui marche très bien et qui est toujours éditée aujourd'hui. Hein. Donc, on a aussi un espèce de marché à deux vitesses, hein, avec des productions qui sont très populaires, hein, qui sont des productions de séries, avec des petites filles très convenables et un dessin très convenu aussi. Et puis des évolutions, par exemple avec la série des Carolines, qui est dessinée par Pierre Props, qui est un Alsacien de Mulhouse. On a une nouveauté qui est justement dans le très graphique, très hachuré, avec aussi une petite fille en salopette rouge qui fait de la conduite automobile et qui fait du ski. On a une nouveauté. Mais ça, c'est les années 80. Effectivement, dans les années 60, il y a à la fois l'apport de la psychanalyse, les changements en termes de psychologie, on a vu avec Dolto, qui font que l'image de l'enfant est ciselée ciblé différemment et on s'interroge sur qui est l'enfant, à quoi il a droit, pas seulement un bien-être matériel, mais aussi un bien-être psychologique, prendre en compte sa parole, l'écouter, etc. Et puis, d'un autre côté, on a toujours ces productions qui continuent et qui sont un peu plus décalées au niveau, je dirais, au niveau des séries et qui sont plus convenues. Et puis, tout ça va évoluer jusqu'à la production qu'on connaît aujourd'hui, qui est quand même assez avant-gardiste. Je pense à un album qui vient d'être réédité là chez Thierry Magnier en 2016, qui s'appelle L'ombre de Julie. Alors, je sais plus le titre exact.
L'histoire de Julie.
L'ombre de Julie est un garçon, c'est ça ?
L'histoire de Julie qui avait une ombre de garçon.
Voilà, ah, c'est ça. Et ça, c'est publié dans les années 76. On est en plein dans la deuxième vague du féminisme. Et c'est une œuvre extrêmement importante, dessinée par Anne Bozelec et écrite par Christian Bruel. Et pourquoi elle est importante ? Parce qu'elle met en place les questions liées aux filles et aux garçons. Et ça, c'est une révolution aussi dans l'album. Et ça va nous amener jusqu'à aujourd'hui des albums qui sont très novateurs du point de vue du genre.
Christian Bruel, c'est l'éditeur.
Oui. Absolument.
On l'écoute.
Je crois qu'on pourrait essayer de résumer notre démarche en trois points. Le premier point, nous ne croyons pas être des livres pour enfants, au sens traditionnel du terme. Nous croyons faire des livres qui sont à la fois pour les enfants et pour les adultes. C'est-à-dire des livres où enfants et adultes se reconnaissent, des livres qui parlent de relations entre les enfants et les adultes, et non pas d'enfants stéréotypés, etc. Sur le second point, nous essayons de faire des livres avec les enfants. C'est-à-dire que ce sont les adultes qui font les livres, mais notre désir d'adulte de faire un livre à propos d'enfance, nous le soumettons avant la réalisation aux enfants, à travers un réseau de classes avec lesquelles nous travaillons. Nous proposons nos histoires aux enfants et en fonction de la façon dont réagissent les enfants, nous nous demandons si notre histoire, notre façon de leur parler, les touche. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une accroche affective ? Est-ce qu'il y a un intérêt profond pour l'histoire ? Et sur le troisième point, on a décidé de tenter d'ouvrir en direction des groupes associatifs, des groupes de parents et surtout des comités d'entreprise pour accéder, si possible, à une diffusion un peu plus populaire.
C'est Christian Bruel, en 1978, fondateur des éditions Le Sourire qui Mord. Ici, on a, quand on entend ce discours-là, un programme très clair. C'est d'ailleurs assez étonnant le paradoxe entre la production finale pour enfants et de voir toute cette réflexion avant. Mais ici, on est à deux doigts d'être sur une démarche militante. C'est un peu ça dans ces années 1970, Loïc Boyer ?
Oui, tout à fait, parce que le collectif du Sourire qui Mord, donc effectivement, auquel appartient Christian Bruel, c'est quelque chose qui naît dans ce qu'on a appelé le printemps des éditeurs, c'est-à-dire tout ce moment qu'il y a eu après mai 68, où vous avez cette explosion de la parole et qui se traduit justement par la création de plein de petites maisons d'édition. Alors, dans tous les champs possibles de l'édition, mais il y en a effectivement en jeunesse, et le Sourire qui Mord est pas l'un des moindres. Et d'ailleurs, participera au Sourire qui Mord, l'illustratrice Nicole Clavelou, qui est peut-être la plus emblématique de cette génération justement issue des années 60 et qui sera amenée à l'édition jeunesse par les livres d'Arlene Quist. C'est pour les livres d'Arlene Quist qu'elle va commencer sa carrière et qu'ensuite, ben, c'est pareil, qui va ensuite, elle va travailler pour Gallimard, pour Bayard, etc., comme beaucoup des gens de sa génération. Mais effectivement, le programme du Sourire qui Mord, c'est effectivement quelque chose qui vient vraiment des révolutions de 68.
Avec de l'audace aussi dans les illustrations, les images libre, Loïc Boyer, dessiné pour l'enfant de 1966 à 1986. Et il y a toutes les formes possibles, on l'a cité avec Tommy Ungerer, ces aplats de couleurs, c'est-à-dire il y a des grands espaces de la page d'une seule couleur et c'est comme une composition en fait et c'est très efficace, mais tout est possible à partir de là. Et dans ces années-là, on voit à travers les ouvrages, votre ouvrage est superbement illustré, on voit que il y a toute l'inventivité possible destinée aux enfants.
Oui, tout à fait. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas un style, en fait. Hein. Ils partent vraiment dans des directions très différentes. Je parlais de Nicole Clavelou. Elle avait au début un style très psychédélique, très pop, donc influencé, comme je disais, par Heinz Edelman et des choses comme ça. Et puis après, elle est partie dans d'autres choses. Elle a fait de la bande dessinée aussi. Vous avez des gens comme Patrick Couratin qui vont être plutôt dans une forme de surréalisme, en fait, dans le dessin, comme Henri Galeron aussi. Il y aura aussi, ça va être les débuts de Daniel Bourg, qui après fera Petit Ours Brun, mais qui au début fait des images dans un style naïf, hein, vraiment comme de l'art naïf, hein. Elle va faire son premier album, ce sera effectivement pour François Vidal, alors à ce moment-là chez Grasset Jeunesse. Voilà, donc on peut pas dire qu'il y a un style en fait à cette époque qui correspondrait à cette génération, à cette manière de s'adresser pour l'enfant. Les choses explosent complètement et même graphiquement, même en termes de typographie, en termes de maquettes, etc. On a des propositions qui sont extrêmement riches et extrêmement variées.
Schneider.
Oui. pardon, je voulais juste rajouter pour l'innovation graphique, par exemple dans Pas de baiser pour maman, c'est écrit c'est dessiné à la mine.
À la mine de plomb.
Voilà, ouais. À la mine de plomb. Et donc là, c'est aussi une innovation qui d'ailleurs n'a pas plu du tout, hein, puisque aux États-Unis, ce livre a été complètement considéré comme beaucoup trop subversif.
Pourquoi, ça raconte quoi?
Alors, ça raconte l'histoire d'un petit chaton qui ne veut plus de baiser de sa maman. D'ailleurs, Ungerer dit très clairement que c'est le cas et qu'il en avait ras-le-bol de l'affection débordante de sa maman. Il faut savoir que la mère était seule avec 4 enfants, donc je pense qu'elle a reporté toute son affection sur ce petit dernier. Et aussi, dans cette histoire, il ne cesse de faire exploser les codes. Par exemple, elle lui offre un réveil qui va lancer par la fenêtre, qui va tomber plus bas et qui va être complètement désarticulé. Et donc on voit la résistance permanente de ce chaton à la normativité ambiante, le foyer parental et domestique bien propre sous tous égards, et on sent que c'est la subversion totale de Tommy Ungerer.
C'est en 1973 que Tommy Ungerer fait paraître Pas de baiser pour maman. Il y a une grosse production, hein, il faut le rappeler. On parle des trois brigands parce que c'est celui qui est sans doute est le plus connu, et ne serait-ce que de voir le dessin qui fait la couverture, tout de suite c'est un univers qui s'offre à nous, mais il y a tant et tant d'ouvrages. Il est peut-être temps d'ailleurs de laisser la parole aux enfants.
Je m'appelle Nils, j'ai 10 ans. Je suis venu, quand on a su que Thomas Ungerer venait ici, on a décidé de rester. Je connais le géant de Zeralda et les trois brigands. J'aime bien les dessins, puis l'histoire. J'aime bien quand il y a de l'action et que c'est drôle.
Thomas Ungerer, tu l'imagines comment?
Bah, à peu près 30 ans, comme ça.
Ça me fait toujours un grand plaisir de rencontrer les enfants. On trouve chez les enfants une curiosité que nous perdons.
Comment ?
Pour moi, un livre, c'est une chose qui doit durer toute la vie. Et comme nous avons tous en nous un enfant, quand je fais un livre d'enfant, c'est aussi bien pour l'enfant dans l'adulte que pour l'adulte dans l'enfant.
Je trouvais qu'il était absolument pas comme je l'avais écrit. J'avais dit 30 ans. En fait, il a l'air d'en avoir plutôt 50. Oh, il a l'air assez gentil.
Là, il faut pas se méprendre, les enfants sont souvent bien plus marrants et bien plus malins que nous. C'est pour ça que je pense que dans le livre d'enfants, il faut quand même maintenir un niveau certainement élevé. Et si je fais une grande partie de mes livres d'enfants, c'est un peu pour apprendre aux enfants à se moquer des adultes avant de grandir trop vite.
C'est Tommy Ungerer qui était en séance de dédicace à la librairie La Bouquinette à Strasbourg. Nous étions en 1997, ce qui veut dire qu'il avait 66 ans. Voilà, donc il paraissait jeune parce que l'enfant lui en donnait que 50. Il y a quelque chose de très dynamique dans cette histoire-là. Loïc Boyer, on entend Tommy Ungerer qui dit que ses livres pour enfants se projettent chez les adultes. Et c'est vrai qu'en tant qu'adulte, on prend un plaisir à lire ses livres pour enfants. C'est pas une histoire statique tout ça, c'est une histoire pleine d'action.
Absolument. Et dès ses premiers albums, en fait, on a vraiment des scènes d'action, des scènes de violence même. Hein. Il y a dans ses albums, en fait, on pourrait dire que Tommy Ungerer, c'est un illustrateur du sexe et de la violence. Alors du sexe pour les adultes, parce qu'effectivement, il a fait beaucoup de choses dans cette direction. Et puis de la violence pour les enfants, dans le sens où on a des histoires, où on a des bandits qui peuvent tirer sur la police, par exemple. Enfin voilà, pour le coup, la loi de 49, je ne sais pas ce qui était prévu. Mais voilà, il y a des poursuites, et tout ça, ça se traduit aussi graphiquement dans la page, avec des diagonales et des choses comme ça. Donc il sait très bien, en fait, rendre la vitesse et l'action dans ses dessins, autant que dans ses histoires.
Oui, parce que ici, on parle des trois brigands, mais il y a tant et tant d'histoires. Hein. C'est quelque chose qui se développe comme un panorama. Et Anne Schneider, vous avez bien dit qu'il y a ce lien. Ben oui, c'est normal, c'est le même auteur qui produit tout ça. Mais ce lien est assez fascinant, toujours dans cette action-là. C'est très dynamique et surtout, c'est très efficace à travers le temps. Je rappelle, c'est 1961, les trois brigands.
Oui, et c'est efficace aussi grâce à l'humour. On n'en a pas beaucoup parlé encore, mais vous avez entendu que l'enfant, là, il a bien repéré l'humour dans les ouvrages de Tommy Ungerer. C'est aussi ce qui permet de désamorcer ce qui risquerait d'être un peu trop violent ou trop problématique. Et puis, l'humour est fondé sur les jeux de mots et sur les jeux de décalage entre le dessin et le texte. Et c'est là qu'on a la marque d'un grand auteur-illustrateur. C'est quand, en fait, il n'y a pas de connexion forcément visible entre le dessin qui peut dire autre chose que le texte et quand le lecteur est obligé de recomposer le sens à partir du dessin et du texte. Et là, c'est là qu'intervient d'ailleurs cette dimension crossover, c'est-à-dire qu'on s'adresse autant aux adultes qu'aux enfants, parce que l'interprétation, elle va être portée autant par l'adulte que par l'enfant.
Ouais, parce que c'est l'interprétation qui compte aussi, ou la médiation quand il s'agit des parents, avec tous ces sujets, et parfois très délicats, qu'aborde Tommy Ungerer.
Le plus beau compliment que j'ai eu de ma vie, c'est une mère qui me disait que son fils dormait
avec « À la guerre comme à la guerre », donc un livre de mémoire sur la Deuxième Guerre mondiale, pour aussi illustrer que son fils de 6 ans dormait avec ce livre sous son coussin.
« À la guerre comme à la guerre », Anne Schneider, c'est là aussi très étonnant, hein, un enfant avec ce livre dans son lit. Mais non, ça aurait été complètement inimaginable avant cette période que nous évoquons des années 1960. C'est un livre dur en soi.
Oui, alors c'est un livre extraordinaire parce que d'abord il faut savoir que il fait un peu le bilan de son enfance et que le livre est agrémenté des dessins que sa mère a conservés, dessins qu'il faisait lui-même quand il était enfant, ce qui nous montre déjà qu'il a une patte graphique absolument extraordinaire. Et puis, ce qui est, à mon avis, très intéressant, mais là, c'est pour l'adulte que nous sommes, c'est qu'il est déjà dans la caricature des nazis. Et en fait, tout petit, à 12-13 ans, il fait un journal pendant la guerre. Donc, il écrit son journal en français et il dessine, il caricature les nazis. Donc, c'est vraiment un témoignage d'époque extraordinaire. Donc, dans l'histoire, il y a quand même deux volets. Il y a ces dessins d'époque qui sont incorporés dans l'histoire. Et puis, ce retour sur sa vie. Et pour moi, c'est un témoignage extraordinaire de ce que l'Alsace a subi à l'époque. Et c'est très rare d'avoir ce genre de témoignage avec une telle qualité. Ça m'étonne pas du tout que les enfants apprécient cet ouvrage. Parce que je pense que c'est vraiment un ouvrage sur une enfance dans la guerre. Au même titre que celui d'Elsbieta, par exemple. Donc, on a une veine là qui est très particulière et qu'il a totalement assumé jusqu'au bout.
Avec un artiste, en plus, faut le rappeler, artiste à part entière, qui dispose de son musée, hein, le musée Tommy Ungerer à Strasbourg. Loïc Boyer, ce musée, là, ce sont toutes ses œuvres. C'est aussi une forme de légitimation de l'histoire qui nous intéresse, celle de la littérature pour enfants. Un artiste qui, entre autres, parce qu'il n'a pas fait que ça, a fait des dessins pour enfants, dispose de son propre musée.
Oui, absolument, et c'est intéressant, enfin, c'est même presque amusant, cette manière dont finalement Strasbourg se réapproprie Tommy Ungerer, alors que comme je disais, il est parti très tôt, et il a fait la grande majorité de sa carrière aux États-Unis. En fait, c'est Tommy Ungerer, en réalité, c'est un auteur américain, hein. Il fait tous ses livres à New York avec des éditeurs américains, et ils arrivent avec, comme vous disiez tout à l'heure, quelques années de recul ensuite en France.
Je ne pense pas qu'un auditeur ou une auditrice n'ait pas envie de découvrir les Trois Brigands si on ne connaît pas, ou à l'inverse, d'aller les revisiter, ces Trois Brigands. Merci vivement à vous deux, Loïc Boyer, Anne Schneider, de nous avoir présenté Tommy Ungerer. Passionnant. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Et il est temps pour nous de retrouver Gérard Noiriel. C'est le pourquoi du comment.
Je pense qu'une question se pose comme un avion, mais quand un avion se pose, il retrouve son ombre. Et ce serait beau si les réponses retrouvaient leur ombre en atterrissant.
Pourquoi les migrants ont-ils été accusés de propager l'invasion des punaises de lit? À la fin du mois de septembre 2023, un grave problème a surgi à la une de notre actualité. Le grand remplacement venait de débuter à notre insu. L'envahisseur avait franchi nos frontières sans même qu'on s'en aperçoive. Un mal qui répand la terreur, aurait dit La Fontaine. Sauf qu'il ne s'agissait pas de la peste, mais de la punaise de lit. Les politiques s'emparèrent de l'affaire, jurant qu'ils parviendraient à vaincre ce nouvel ennemi. Les journalistes apportèrent leur contribution en multipliant les débats avec des experts qui nous expliquèrent comment se débarrasser du mal. C'est dans ce contexte qu'un animateur d'une chaîne d'information en continu proposa à ses interlocuteurs de réfléchir à la question suivante. Est-ce qu'on sait pourquoi il y a plus de punaises de lit aujourd'hui? Est-ce lié à l'hygiène? Je vais poser toutes les questions. Il y a beaucoup d'immigration en ce moment. Est-ce que ce sont les personnes qui n'ont pas les mêmes conditions d'hygiène que ceux qui sont sur le sol de France? Cette façon d'associer l'immigration, le manque d'hygiène et les épidémies n'avait rien de nouveau. Ce fut même un poncif des discours d'extrême droite depuis le XIXe siècle. Les députés de la France insoumise et de Renaissance ont donc eu raison de faire le lien entre ces propos et les discours racistes et antisémites des années 1930. Mais les références historiques qui ont été mobilisées à l'occasion de cette polémique montrent aussi le caractère sélectif de la mémoire quand elle est utilisée dans le combat politique. Il a manqué un mot pour caractériser le type de raisonnement associant l'immigration et les épidémies, c'est celui de xénophobie, un terme trop souvent confondu aujourd'hui avec le mot racisme. Pourtant, c'est la xénophobie, entendue comme la haine de l'étranger, qui a été le point de départ de ce genre de prose. Il est apparu à la fin du XIXe siècle, quand les États-nations ont inauguré des politiques centrées sur la maîtrise des flux migratoires. Aux États-Unis, dès le début des années 1880, les émigrants ont été accusés de propager le choléra. C'est l'un des arguments qui a été avancé par les autorités lors de l'adoption du premier Immigration Act en 1882. Deux ans plus tard, lorsque l'épidémie de choléra s'est répandue en France, les immigrés espagnols et italiens ont subi le même genre d'avanie. Et les polémistes antisémites ont repris à leur compte le discours xénophobe associant migration et épidémie pour s'opposer à l'entrée des Juifs russes. Au début du XXe siècle, le choléra n'étant plus vraiment d'actualité, on a reproché aux réfugiés ayant fui les pogroms de Russie de prendre le travail des Français, mais aussi de leur transmettre le trachome, une maladie infectieuse de l'œil. Après la Première Guerre mondiale, le même genre d'argument alimenta les discours xénophobes contre les Arméniens. La polémique récente sur les punaises de lit montre malgré tout un progrès de la conscience humanitaire, puisque les propos de cet animateur, énoncés sous forme de questions, ont fait scandale, alors qu'avant la Seconde Guerre mondiale, ils étaient admis comme une évidence par une grande partie de la population.
Merci Gérard Noiriel. Le pourquoi du comment à retrouver sur franceculture.fr et sur l'appli Radio France. Et dans le cours de l'histoire, nous recevons Valérie Hanin. Bonjour Valérie.
Bonjour Xavier.
Directrice de rédaction du magazine L'Histoire qui nous fait voyager, voyager en lumière Valérie.
Eh oui, voyager en lumière, parce que les Lumières, longtemps on a cru, on les a vues comme un petit groupe de philosophes, penseurs plus ou moins parisiens, unanimement dressés contre le pouvoir des églises défendant la tolérance, évidemment, et contre tous les absolutismes. Alors, on les voit aujourd'hui plus longues, plongeant des racines dans le XVIIe siècle, et puis plus européennes, plus mondiales même, et puis aussi plus ambivalentes, questionnant davantage toutes les idées de progrès, notamment, un peu plus qu'on ne le savait. Les voyages sont un formidable lieu d'observation de ce point de vue. Parce que les voyages, la société du XVIIIe siècle se met en mouvement et on multiplie les voyages de découverte, les voyages savants, les voyages commerciaux évidemment. Et ce sont autant d'occasions de confrontation avec des populations inconnues. Alors, ici, on parle de quelques voyages dans ce dossier de l'histoire, mais notamment de la Polynésie, des Tahitiens. Antoine Lilti nous raconte l'extraordinaire histoire des Tahitiens en Europe. Alors, on connaissait Bougainville, bien sûr, on connaît très bien Bougainville, hein, le premier Français à faire le tour du monde, les premiers contacts avec la Polynésie, la mission que lui donne Louis XV. Mais on connaît moins le Tahitien de Bougainville, qu'il ramène et qu'il va à Outourou, qui est l'objet d'un beau livre de Véronique d'Orbe-Lacard de ces temps-ci, hein, qu'on redécouvre. Tous ces récits de voyage, ces Tahitiens à Paris, ces échanges, les Européens ne sont pas les seuls à voyager. Et donc, toutes ces confrontations, ça donne lieu à pas mal de bouleversements sur les idées reçues.
Et les idées qui circulent, elles aussi, elles voyagent. Rien n'arrête la circulation des idées.
Rien n'arrête la circulation des idées et rien n'arrête la réflexion sur le mythe du bon sauvage. Aucun de ces penseurs n'a cru évidemment au paradis primitif ni au bienfait d'une civilisation sauvage. Tous ces dialogues avec les sauvages qui se multiplient. Hein, Lahontan, Diderot à propos de suppléments voyageurs de Bougainville, c'est autant de façons de questionner les bienfaits de la civilisation et du progrès. On valorise les savoirs autochtones, on sait très bien qu'il y a d'autres façons de vivre, on est universel, on croit au progrès, oui, on croit à la valeur du savoir qui émancipe, mais on est très 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 sceptique sur le fait d'imposer sa civilisation aux autres. Hein, rappelons le mot de Swift qui parle de boucherie sanglante à propos de la colonisation, que ces lumières évidemment vont accompagner, mais par la suite, mais qu'elles ne justifient
absolument pas. Ainsi, toute cette réflexion sur le progrès, le doute, hein, qui, ce progrès qui est mis à la question par ces confrontations aussi bien par les, avec les Amérindiens de la Nouvelle-France qu'avec les Tahitiens qui arrivent à Paris, tous ces doutes, tous ces vacillements de l'intelligence, eh bien, c'est ce que nous avons voulu montrer dans ce dossier sur les voyageurs des Lumières, beaucoup plus inquiets qu'on ne le pense.
C'est le magazine L'Histoire, Voyageurs des Lumières, le progrès et le doute. Merci Valérie d'avoir mis un peu de lumière sur les Lumières. Voilà.
Merci.
Merci beaucoup à vous. C'était le cours de l'Histoire sur France Culture, préparé par Jeanne Delecroix, Toscane Dudès, Jeanne Copper, Raphaël Laloum et Maïwenn Guizhou, ainsi que Tom Umdenstock, à écouter, à podcaster sur franceculture.fr et l'appli Radio France.